cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous, ravie de passer cette demi-heure en votre compagnie, une demi-heure consacrée à l'échange autour de la foi. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons parler d'un cardinal qui, d'un tout nouveau cardinal qui a une figure bien plus grande que cela, et Dieu sait si celle d'un cardinal est déjà grande. Il s'agit de Monseigneur Nzapalainga. Dimanche 9 octobre, le pape François a annoncé la création de 17 nouveaux cardinaux, dont 13 pourront élire le prochain pape. Parmi eux, un Africain, le centrafricain Dieudonné Nzapalainga, 49 ans, archevêque de Bangui. Monseigneur Nzapalainga deviendra ainsi le benjamin du Sacré Collège et le premier cardinal centrafricain. Avec le chef de l'église protestante centrafricaine et l'un des imams de Bangui, Monseigneur Nzapalainga a formé une association de bienfaiteurs, c'est en tout cas comme cela que je les appelle, surnommée les Trois Saints. Avec ces deux autres hommes de foi, eh bien, il a inlassablement, et continue de le faire d'ailleurs, œuvré pour que la paix revienne dans son pays déchiré, les trois insistant sur le fait que la guerre et les crises qui avaient lieu en Centrafrique n'avaient rien de confessionnel. Pour en parler avec nous, Albert Mianzoukouta, mon confrère de Radio Vatican, qui est à Rome et qui est en direct, et nous avons la chance, vous aurons la chance d'échanger avec Monseigneur Nzapalainga lui-même. Nous allons commencer avec vous, Albert. Bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Alors avant de parler directement avec Monseigneur Nzapalainga, dites-nous pourquoi c'est un événement. D'abord, il n'est pas le premier Africain à devenir cardinal.
Bon, d'abord, si c'est un événement, c'est parce que nous en faisons un événement. Et je crois que nous faisons bien, nous les hommes et femmes de médias, et c'est cela. Mais c'est un événement aussi parce que, effectivement, donc, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga est jeune, vous l'avez noté, mais il a été aussi, et il continue de l'être, au cœur d'un effort inlassable pour que la République centrafricaine ne bascule pas dans des conflits tels que nous en voyons d'ailleurs, hélas, un peu trop nombreux autour de l'Afrique et même en Afrique, c'est-à-dire où la motivation, le ressort fondamental serait donc les différences à la fois d'ethnie et de religion, doublées de religion, donc je disais, et vous l'avez dit ça aussi, avec ces deux, j'allais dire, compatriotes, l'imam de Bangui et puis le pasteur de la capitale centrafricaine.
Oui.
Et il a formé cette association qui a inlassablement sillonné aussi bien les rues de Bangui que d'ailleurs le monde, puisqu'ils sont allés jusqu'aux Nations Unies pour plaider la cause de la République centrafricaine, faire en sorte que la communauté internationale aide ce pays à ne pas sombrer dans l'irréparable, en fait. C'est ça. Alors c'est un événement parce que Monseigneur Dieudonné Nzapalainga est effectivement le premier archevêque centrafricain à devenir cardinal. C'est un événement parce qu'il est jeune. C'est un événement parce qu'il est religieux, il est spirituel, donc la congrégation des Pères du Saint-Esprit. C'est un événement parce qu'au cœur de l'Afrique centrale, la République centrafricaine, malgré tout, a donné les gages d'une volonté de s'engager dans la démocratie pluraliste de manière pacifiée, même s'il y a depuis les élections, donc au début de l'année, il y a eu des épisodes de violence. Mais le pape François a voulu appuyer cette volonté de son jeune membre de l'Église catholique, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, d'aller vers la paix et de faire en sorte que fraternité et dialogue soient mis en avant avant toute autre chose.
Albert, voilà, quels sont les prédécesseurs de Monseigneur Nzapalainga au poste prestigieux de cardinal, les prédécesseurs africains, s'entend?
Là, je n'ai pas compris la question.
Quels sont les prédécesseurs de Monseigneur Nzapalainga?
À Bangui, bon.
Non, pas à Bangui, en tant que cardinal. Quels sont les autres cardinaux africains?
Ah oui, bon. D'abord, donc, rectifions, hein, vous avez dit qu'il était le seul cardinal africain, non? Il est l'un des trois qui ont été annoncés par le pape. Donc, il y a Monseigneur Piat à l'île Maurice et puis il y a un cardinal de Lesotho. Donc, ils sont trois. Alors, les cardinaux africains, il y en a, vous savez. Donc, à commencer par ne parler que des pays les plus grands, j'allais dire géographiquement et démographiquement. Donc, nous parlons du Nigeria. Nous avons aujourd'hui dans la capitale nigériane, Abuja, un cardinal, le cardinal John Onayekan. Il y a un cardinal à Lagos, la grande mégapole. Il y a un cardinal à Kinshasa, en République démocratique du Congo, cardinal Laurent Mosengo Pasinya. Mmh. Il y en a au Kenya, il y en a en Tanzanie, en Ouganda, il y en a en Côte d'Ivoire, le cardinal Coutouan à Abidjan. Mmh. Il y en a il est émérite, c'est-à-dire qu'il s'est retiré à Douala, au Cameroun, le cardinal Toumi. Mmh. Nous avons un cardinal au Burkina Faso, donc à Ouagadougou.
D'accord, donc on comprend bien Albert, qu'il ne s'agit pas. On comprend bien.
Il y a le cardinal Pierre Adioban en Afrique du Sud, bien entendu.
Allô, Albert, on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais c'est un événement peut-être historique aussi, en regard de ce que vivent les Centrafricains en ce moment. Quelle est fonction d'un cardinal?
Alors, la fonction d'un cardinal. D'abord, donc, il faut voir que dans la hiérarchie de l'Église catholique, le cardinal vient après le pape. Si nous pouvions parler de galon, donc ce serait vraiment le gradé le plus proche de la papauté. Mais ils ont une mission, c'est qu'ils sont nommés pour aider le pape dans sa tâche de tous les jours, le conseiller, et ils forment un collège qui est un organisme puissant, le collège des cardinaux, qu'on appelait d'ailleurs il y a quelque temps le sacré collège, oui. Qui est dirigé par un doyen, et c'est au sein du sacré collège, il faut le savoir, donc au sein des cardinaux, qu'on nomme, qu'on choisit le successeur d'un pape. Le successeur d'un pape est choisi par les cardinaux et il doit donc lui-même être forcément cardinal. C'est en cela d'ailleurs qu'il faut relever l'importance de la nomination du cardinal, enfin de Monseigneur Dieudonné Nzapalainga au cardinalat, c'est qu'il est membre de ceux qui éliront le pape, le successeur du pape actuel à sa mort. Je parle de sa mort, c'est triste, mais c'est...
En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Oui.
À part le pape Benoît XVI qui, j'allais dire, un peu dribblé l'histoire, si on peut dire, en se retirant volontairement, eh bien, un pape ne quitte sa fonction qu'à sa mort. Mm-hmm. Et donc, un nouveau pape n'est élu qu'à la mort du précédent. Et donc, Monseigneur Nzapalainga, mais aussi les 15 autres cardinaux africains aujourd'hui, eh bien, ils seront membres du conclave, c'est-à-dire l'assemblée qui va élire le successeur du pape François actuel à sa mort. Alors, c'est très important parce que, pas seulement en tant qu'Africain, mais aussi en tant que voix du Sud, n'est-ce pas, jusqu'ici, l'Église catholique a toujours été, je parle trivialement, mais une affaire d'occidentaux, n'est-ce pas? Ils ont l'Europe, notamment, a le plus grand nombre de cardinaux, après suivait l'Amérique du Nord. Eh bien, avec les nominations annoncées par le pape dimanche, l'Afrique en tant que continent, surpasse l'Amérique du Nord en nombre de cardinaux. Alors, vous voyez donc que c'est un poids qui est démographique, mais un poids aussi qui est donné au bulletin de vote qui sera glissé dans l'urne lorsque le conclave se réunira et qu'il s'agira d'élire donc un pape. Il ne sera peut-être pas forcément africain, ce pape,
mais en tout cas,
il sera élu avec
par des gens qui ont en tête les préoccupations et les réalités africaines. Merci beaucoup, Albert, pour ces précisions nécessaires pour bien comprendre dans quel contexte s'inscrit la nomination de Monseigneur Nzapalainga, que nous avons la chance d'avoir au téléphone. Bonsoir, Monseigneur Nzapalainga.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Alors, nous allons commencer par les traditionnelles félicitations.
Merci beaucoup.
Où est-ce que vous étiez quand vous avez appris que vous avez été choisi pour faire partie du Sacré Collège?
Moi, j'ai appris que j'ai été nommé cardinal en brousse. à 160 km de Bangui. J'étais parti pour installer un nouveau curé en brousse. Et c'est là-bas où j'ai appris. Et j'ai pensé à l'histoire dans la Bible où le pauvre Amos était auprès d'un bouvier. Il était perdu. Et on est parti le chercher pour être prophète. Voilà, on m'a annoncé.
Mais vous n'étiez pas tout à fait perdu en brousse, monseigneur.
Pardon ?
Vous n'étiez pas tout à fait perdu en brousse. Vous y aviez été avec un but.
Ben, j'étais en brousse en train de faire l'évangélisation. Mmh. Après la messe, j'entretenais les laïcs pour les inviter au rôle du curé. Leur concours, surtout à cause de leur baptême, doivent s'engager à aider le curé a annoncé la bonne nouvelle et à prendre en charge le presbytère. Et voici qu'on m'annonce par l'annonciature que je viens d'être nommé cardinal. Il était midi. Je disais, heureusement que je ne suis pas un cardiaque, sinon je serais tombé.
Donc c'est une nouvelle qui vous est arrivée et vous a rempli de joie aussi.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais on prend ce genre de nouvelles avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité et surtout, moi je reconnais personnellement que je n'ai rien mérité pour avoir ce poste-là. C'est une pure grâce. C'est le Seigneur qui appelle, qui veut. J'ai toujours pensé que le pape François a positionné son pontificat sur l'axe des pauvres. Et il est venu dans un pauvre pays qui s'appelle la République centrafricaine, où il nous a redonné confiance. Déclarer les puissants Bangui capitale spirituelle du monde, ce qui n'est pas rien. Et nous avons vu qu'il a toujours l'œil ce pays pour lequel il a vraiment une grande affection. Et il vient de poser un geste unique, pas pour moi, mais pour la puissance africaine. Et vous venez de le dire, les autres aussi, ici, nous avons engagé une longue histoire de fraternité, de dialogue. Ça veut dire maintenant, musulmans, protestants, catholiques, nous sommes ensemble. À chaque fois, nous nous concertons, nous œuvrons ensemble, en interne comme en externe. Et ce qui nous a permis de faire le plaidoyer en allant aux Nations Unies, en allant dans plusieurs pays, pour que la vie des centrafricains soit sauvée. Je pense que c'est la nomination, c'est le fruit de ce travail ensemble avec beaucoup d'évêques, avec beaucoup de prêtres, avec beaucoup de religieux, des chrétiens et aussi d'autres croyants. Et c'est ça qui a fait qu'ils puissent avoir cette nomination. Donc je dis cette nomination à tout le monde, tous au sens large, nous participons à cette mission de cardinal.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. C'était la voix de Mgr Zapalainga, archevêque de Bangui, fraîchement, nouvellement nommé cardinal que vous entendiez. C'est le dialogue des religions. On continue ensemble.
Dialogue des religions, c'est tout la lundi soir à 19h TU sur la Voix de l'Amérique.
Monseigneur Zapalainga, vous êtes toujours avec nous ?
Je suis toujours avec vous.
Formidable. Vous savez que cette émission, puisque je sais que vous êtes un auditeur assidu de la voix de VOA Afrique, vous savez que cette émission est interactive et que donc nous avons des auditeurs qui appellent et qui s'expriment. Et c'est le cas encore aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire. Et nous sommes aujourd'hui, ce soir, avec Youssouf à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Youssouf.
Oui, bonsoir à VOA Afrique, bonsoir au nouveau cardinal, Monseigneur Dieudonné Zapalainga, que je félicite d'ailleurs, et à tous les auditeurs de VOA Afrique, à la rédaction également.
Et notre confrère Albert Mianzoukouta qui est encore avec nous. Alors dites-nous, Youssouf. Allô Youssouf, qu'est-ce que vous souhaitez partager avec nous ?
Oui, je suis là.
Oui, nous vous écoutons.
Voilà, moi je pense que la nomination de Mgr Zapalainga témoigne de la reconnaissance des efforts humanitaires vraiment inlassables de ce monsieur. Alors, pendant les périodes chaudes qu'a connu son pays, il était aux côtés des civils de toutes religions confondues au péril même de sa vie. Chrétiens comme musulmans, on voyait tous les images à travers les médias, on attendait les reportages sur différentes zones, dont VOA Afrique, que je félicite d'ailleurs. Alors, moi, je dis que Le cardinal devrait donc porter au nom de l'Afrique un message de pardon, de tolérance, d'amour, de rassemblement et de paix dans ce pays-là qui, malgré tout, demeure très convalescent, avec un peuple apeuré, traumatisé du fait de cette malheureuse crise, avec une population qui a besoin d'assistance spirituelle continue. Et je pense qu'il l'a lui-même dit, avec ses collègues musulmans et autres, il faut se donner la main dans le bon sens du terme pour arriver justement à amener la population centrafricaine à comprendre la nécessité, le bienfait de la paix, le bien fondé de la cohésion sociale, de sorte qu'on puisse aider les politiques à sortir vraiment de cette crise malheureuse qui n'a fait que trop durer.
Merci Youssouf. Alors, Monseigneur Nzapalainga, vous voyez, à peine nommé cardinal, vous avez déjà des devoirs qui vous attendent. Comment vont les Centrafricains aujourd'hui?
Alors, j'ai une bonne nouvelle pour Youssouf que je salue. Eh bien, aujourd'hui, je suis allé dans le quartier qu'on appelle Enclave, où il y a majoritairement des frères musulmans. Je suis allé marcher avec certains chrétiens. Quelle était ma joie de voir qu'il y a un immense land qui sépare ce quartier, mais les autres étaient là avec les mouchoirs, ils nous attendaient. Nous sommes arrivés, ils nous ont accueillis, des embrassages, des joies, des pleurs. Et en même temps aussi, nous avons dit aux uns aux autres, c'est la voix de la paix qu'on doit entendre, la voix de la réconciliation, la voix de la cohésion, la voix de la fraternité. Nous avons traversé. Aujourd'hui, il y a eu deux événements que je peux vous partager,
oui,
où la voix de la mairie qui nous ont marqués. En marchant, il y a une chèvre qui s'était glissée dans la marche. Mais cette chèvre a suivi la marche tout le long. Allez-y comprendre quelque chose.
Mais qu'est-ce que vous y comprenez, Monseigneur? Qu'est-ce que vous y comprenez?
Je suis en train de vous dire qu'il y a un fait qu'on n'a pas pu expliquer.
D'accord.
Il y avait les véhicules, les motos et tout. La chèvre est restée au-devant de nous. Elle a continué la marche pour arriver jusqu'au bout. On avait dit, voilà la mascotte de cette marche-là.
Bon.
Allez-y comprendre quelque chose. Et nous avons dit, ça fait un signal. Ça veut dire, même si les bêtes ont compris le sens de la paix, nous, les hommes, on doit maintenant nous ressaisir. Hein, et nous tendre la main et nous réconcilier. On n'a plus le temps à perdre pour continuer à éliminer des vies inutilement. Deuxième fait,
oui,
il y a un jeune qui était arrêté et était peut-être dans ce qu'on appelle prison, dans ce quartier. J'ai rassemblé des jeunes qui faisaient de l'autodéfense. Je leur ai parlé. La nécessité de désarmer le cœur, les esprits. La nécessité de voir l'autre pas comme un ennemi, mais comme un frère. Peut-être quand vous ne le connaissez pas, vous le traitez de tout. Mais si vous le connaissez, vous pouvez vivre ensemble. Et attention, nous avons à répondre de nos actes. Et surtout, nous devons maintenant montrer un gage d'une nouvelle vie à travers la réconciliation, le pardon. Si nous avons toujours à faire du mal, il faut réparer. Et bien, les jeunes sont concertés. Ils sont allés me retirer un jeune qu'ils ont mis en prison chez eux. Ils me l'ont donné en disant, avec ce que vous nous avez dit, ce jeune-là, on l'avait amené, peut-être qu'on l'aurait tué, mais vous venez de nous parler, prenez ce jeune, vous le ramenez en vie. Et bien ça, c'est un événement unique que nous avons vécu aujourd'hui. Si je n'étais pas parti, peut-être que son sort était lié,
était scellé,
mais aujourd'hui,
et
Dieu
pas
a
des
permis,
meilleurs.
Scellé. Mmh. Dieu a permis que je sois là, hein, avec les autres, et nous avons ramené sain et sauf. Et nous voulons sauver des vies. Nous nous sommes unis, musulmans, protestants, catholiques, pour sauver des vies.
Alors justement, Monseigneur Nzapalainga, justement,
oui,
cet exemple comme celui qui au fond est un parmi tant d'autres qui font votre vie telle que nous la connaissons depuis une dizaine d'années maintenant, quels conseils donnez-vous à ceux qui nous écoutent en Afrique et qui ont peur d'aller vers l'autre, qui ont peur d'aller vers l'autre religion, qui ont peur d'aller vers l'autre camp, parce qu'au fond c'est comme ça que tout commence.
Alors, je voulais commencer par dire, quand on parle de religion, religion en latin veut dire religare, ça veut dire relier. La religion doit nous relier, non seulement à Dieu, mais relier à nos frères. Or, souvent, certains ont utilisé la religion pour aboutir à leurs désirs ou assouvir leurs instincts. Ils ont instrumentalisé la religion et la religion a perdu son sens. Nous devons garder son sens. Ça veut dire qu'elle nous permet de nous ouvrir à Dieu, ouvrir à nos frères. En même temps, ceux qui ont peur, quand vous avez peur de l'autre et que vous ne faites pas le premier pas, eh bien, la peur va vous paralyser, va vous tétaniser. Il est temps pour nous d'oser la rencontre, d'avoir le courage hein, d'audace d'aller vers l'un. Quand vous allez vers l'autre, vous faites tomber les barrières. Vous faites tomber non seulement les préjugés, hein, vous devenez proche de l'autre et ça vous permet de découvrir ce qu'il pense, ce qu'il dit, et vous rentrez aussi dans la dynamique de la vérité des faits. Parce que l'autre, au loin, on dit mille et une choses.
Oui,
et
alors là, vous nous parlez des conséquences, vous nous parlez de ce qui se passe une fois qu'on a franchi le pas. Mais comment on fait pour franchir le pas quand on a justement très peur et qu'on a été élevé dans l'idée que l'autre, c'est l'ennemi? Je parle des gens qui vivent sur le continent et qui sont dans des situations, dans des espaces de conflit.
Il faut faire d'abord une démarche, un travail sur soi. Que si j'aime Dieu, celui qui est créé à l'image de Dieu n'est pas mon ennemi. C'est un acte de foi. Voilà, celui-même le plus grand assassin, je veux aller le saluer. Je veux aller être proche de lui. C'est un acte de foi que je pose en allant vers lui. Peut-être en venant vers lui, je vais le désarmer. Et je venais de vous le dire, en allant vers ces jeunes-là, je vais désarmer. Rien qu'en par la parole, ils ont écouté, et ils ont obéi, ils ont exécuté quelque chose. Allons, sortons de notre peur, allons vers l'autre, à nos risques et périls, parce que personne, tant qu'on restera loin l'un de l'autre, eh bien, nos distances vont nous éloigner. Mais plus nous allons oser aller vers l'autre, eh bien, plus nous aurons à découvrir et des richesses. L'autre n'est pas que mal, n'est pas que l'incarnation du diable. Il a des valeurs, il a des richesses. Mais il faut que je m'approche de cet homme-là, de cette femme-là, pour découvrir ses bienfaits et valoriser, l'estimer, respecter. Et c'est ça aussi.
Au standard de VO Afrique, les auditeurs se pressent, dont Bakary Keïta à Bamako. Bonsoir Bakary.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Ok, quand même, en tant que musulman, moi je suis ravi quand même avec cette nomination, car quand même c'est une marque de confiance. Quand même, c'est un événement parce que c'est le premier centrafricain et aussi le deuxième grossit quand même le lot quand même des cardinaux africains. Mmh. Et vous voyez donc toute ma fierté parce que ça met quand même le continent africain en valeur.
Et le musulman que vous êtes arrive à en percevoir l'importance malgré le fait que ce n'est pas la même religion.
Oui, effectivement, quand même, je suis ravi parce que souvent même ici à Bamako, la plupart de mes amis sont des chrétiens, vous voyez. Donc, je cohabite bien avec eux. Donc, cependant, je m'en vais quand même poser quand même quelques questions.
Alors, vous avez juste le temps d'en poser une parce que l'émission est terminée dans 5 minutes. Donc, si vous voulez que Mgr Zapalainga réponde, il faut que vous en posiez une seule, Bakary. Je suis navré.
Bon, d'accord. Quel est, par exemple, le rôle des cardinaux face à ce terrorisme, quoi? Si les cardinaux, quand même, ont tellement des rôles à jouer face à ce terrorisme, maintenant, ceux qui prennent les armées pour combattre certaines personnes au nom vraiment de la religion ou bien qui n'ont pas quand même les mêmes visions qu'eux, quoi.
Merci beaucoup, Bakary, pour cette très importante question. Effectivement, Mgr Zapalainga, on vous voit sur des fronts qui dépassent largement les portes de l'Église et vous jouez quasiment un rôle politique. Alors, que peuvent les cardinaux face au terrorisme?
Eh bien, je remercie et je salue Bakary.
Très belle soirée à vous, Bakary.
Le rôle du cardinal, c'est d'aller vers à la rencontre de l'autre. Parce que vous voyez, les extrémistes, chacun a ça en soi. Et plus on est dans l'obscurité, eh bien, on peut être porté à poser des actes ou dire des paroles qui nous éloignent des autres et qui nous radicalisent. Et nous devons aller. Ça veut dire que nous devons aider d'abord beaucoup à l'éducation. Nous devons aider à nous rencontrer en disant que dans cette humanité, nous sommes des frères. Il n'y a pas des ennemis. Or, souvent, on prend l'autre comme un ennemi et on pense que si je le tue, je serai heureux au nom de quel Dieu. Mais Dieu n'a jamais voulu la mort. Dans le Coran, il est dit interdit de tuer. Dans la Bible, il est aussi interdit. On ne peut pas tuer, mais c'est souvent l'interprétation, parce qu'on ne sait pas, on ne mesure pas, et qui nous pousse, ou bien la passion ou la chair. Maintenant, je peux dire, selon Bakary, que nous devons plus éduquer. Nous devons plus apporter un peu de culture à nos frères et nos sœurs pour qu'ils puissent découvrir la valeur inestimable de l'être humain. Tout homme est créé à l'image de Dieu. On ne peut pas détruire l'homme.
Albert Mianzoukouta, vous êtes resté avec nous très patient, silencieux. Un mot de la fin?
Eh bien voilà, donc encore une fois, moi aussi de mon côté, je renouvelle les félicitations donc à son éminence, en disant que finalement la démarche de Bangui, l'Afrique a souvent été vue négativement, c'est la terre de tous les effondrements humains, intellectuels, politiques, économiques, etc. Mais Bangui nous redore un tout petit peu le blason, parce que la démarche interreligieuse a permis à un pays de revivre. J'ai vu la marche que Monseigneur Nzapalainga a menée au kilomètre 5 il y a un an de cela, un quartier qui était fermé et qui s'est ouvert donc à la fraternité des Banguissois. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est vraiment la démarche que l'Église aujourd'hui entend amorcer, avec le pape François d'ailleurs, et qui nous pousse, qui nous demande d'aller vers les périphéries, pas seulement géographiques, mais aussi existentielles.
Merci beaucoup Albert Miazukuta, confrère de Radio Vatican à Rome. Merci pour vos éclairages et pour ce mot de la fin. Monseigneur Nzapalainga, merci également d'avoir accepté de partager avec nous cette joie que, et vous le comprenez puisque vous êtes sur VO Afrique, que vous partagez avec tout un continent. Et le moins que l'on puisse vous souhaiter, eh bien, c'est de continuer sur cette lancée qui est très particulière et que nous suivrons de très très près. Merci également à vous, chers auditeurs, qui vous êtes manifestés nombreux. Désolé pour ceux que nous n'avons pas pu diffuser à l'antenne. Cette émission a été possible grâce à l'apport technique de Georges Léonard Sagnot et de Chang. Restez sur VOA Afrique.